Le journal, Josette Sédou.
Bonjour, le cuisinier Philippe Ligron est de passage dans la région, non pas derrière les fourneaux, mais sur scène avec son spectacle Bon Appétit, où il questionne, triture et se moque de nos habitudes alimentaires qui sont aussi les siennes. Interview tout à l'heure. Quelques heures avant le lancement officiel de la 19e édition du Festival du film français d'Helvétie à Bienne, visite des coulisses techniques de l'événement avec un projectionniste. Freiner les coûts de la santé, pas comme ça pour le Conseil d'État. L'initiative du Centre pour un frein aux coûts de la santé a eu le même sort que son homologue socialiste pour plafonner à 10% le revenu de la charge des primes maladie. On verra quel avenir pour ce projet. Météo, un ciel couvert et un temps changeant, voici ce qui nous attend aujourd'hui. Quelques gouttes cet après-midi et des températures en baisse par rapport au jour précédent. L'alimentation et la gastronomie ont énormément évolué au fil des siècles avec passablement de dérives. La faute à la junk food et à la commercialisation de masse. Le cuisinier et historien Philippe Ligron le constate. Il souligne nos travers alimentaires, les siens aussi, dans un spectacle intitulé « Bon appétit » à voir à Lanneville et à Saint-Imier. De l'humour, de la satire, un soupçon de morale aussi, mais sans jugement. Comme lorsqu'il parle du rôle de l'éducation, Philippe Ligron.
Les cours de cuisine qu'on avait, on nous apprenait à manger correctement, donc à se respecter, et mieux encore, à protéger sa santé. Ces cours-là, ils fondent comme beurre au soleil.
C'est important, l'éducation au goût, mais l'éducation, ça passe par du temps, ça... Et à nouveau, prioriser les choses, peut-être qu'au lieu d'allumer la télé le soir pour regarder Dieu sait quelle idiotie, peut-être essayer de vous faire, vous qui nous écoutez maintenant, de vous faire des pâtes fraîches. 100 grammes de farine par personne, une cuillère à café d'huile d'olive, un tout petit peu d'eau, jamais de sel. Le sel, on garde pour l'eau de cuisson. Et vous verrez que ces pâtes-là, qui finalement seront certainement pas meilleures que d'autres, mais elles vont devenir de facto les meilleures du monde parce que c'est vous qui les avez fait. Et encore mieux avec cet ingrédient magique, l'émotion avec des proches, etc. C'est ça la cuisine. C'est un moment de bonheur, c'est un moment de respect.
Je collabore actuellement avec Alzheimer Vaud. J'ai eu tout un débat avec des spécialistes qui s'occupent des EMS et qui préconisent de donner des barres chocolatées à nos anciens à longueur de journée. Mais quitte à leur donner des choses sucrées et grasses, donnons-leur au moins des choses qui pourront peut-être réveiller leur patrimoine émotionnel. Des taillés au gros bon, des quiches lorraines, des salés au sucre, des pâtés en croûte.
Quand on parle de cuisine, alors effectivement, il y a un côté alimentation, il faut se nourrir. Mais il y a autre chose derrière, et puis c'est peut-être ça qu'on perd de temps en temps ou qu'on perd un peu trop, selon vous.
Oui, c'est un peu le fond de ce spectacle, c'est que, en fait, c'est un constat qu'on n'a pas 5 sens. On en a 6, et c'est ce 6e sens. Alors, les 5 sens, on va les rappeler, hein, l'odorat, la vue, le goût, l'ouïe et le toucher. Mais en fait, il y en a un 6e qui est pour moi le plus important, surtout dans mon domaine d'activité, qui est l'alimentation, c'est l'émotion. On peut manger le meilleur plat du monde, mais s'il n'y a pas ce regard brillant du cuisinier, s'il n'y a pas ce petit côté exceptionnel, ça reste un plat, voilà. Alors qu'on peut faire un plat très très simple et qui peut devenir complètement « waouh », juste le truc qui fait tomber la mâchoire par terre tellement c'est bon.
Un sujet d'Olivier Zano. Philippe Ligron proposera plusieurs dates dans la région. Première représentation de son spectacle Bon Appétit demain et vendredi au théâtre Tétois à Neuchâtel, puis samedi à la Tour de Rive à Lanneville. Le spectacle passera également par le CCL de Saint-Imier le 29 septembre, le tout dans le cadre de la Semaine du Goût. Préparer la salle de cinéma et vérifier le bon fonctionnement de la technique avant et pendant le film. Pour ce 3e épisode de notre série sur cette 19e édition du Festival du film français d'Helvétie, on découvre l'envers du décor avec le responsable technique Cinévital. L'événement du FFFH débute dès aujourd'hui à Bienne et se prolonge jusqu'à ce dimanche. À quelques heures de la soirée de pré-ouverture, l'équipe technique est en pleine préparation. Reportage.
On retrouve aujourd'hui Ricardo Martella, responsable technique Cinévital pour le FFFH. Pour un festival comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire au niveau technique?
Pour ma part à moi et puis à l'équipe de Cinévital, il y a un travail en amont qui consiste à déjà préparer la salle à accueillir un festival, c'est-à-dire à toute la partie technique supplémentaire avec l'accueil de beaucoup de gens, avec des films en plus grande quantité. Donc on prépare en amont toute cette partie-là parce qu'on a un fonctionnement qui est quand même complètement différent pendant le reste de l'année. On réceptionne les différents films qu'on va devoir passer pendant le festival. Ensuite, on prépare les locaux aussi pour accueillir les différentes entreprises partenaires qui vont travailler avec nous pendant ces moments-là. Et ensuite, c'est principalement un travail de préparation de playlist, donc préparer les différents éléments qui vont être vus par le public dans la salle. Et une fois qu'on a fait ça, le festival commence et à partir de ce moment-là, c'est la vérification du bon fonctionnement donc, du film dans la salle et réagir en cas de problème, ce qui n'arrive bien entendu jamais.
Donc là, on est à quelques heures de la première production. C'est Nouveau Départ qui sera présenté ce soir pour la première fois pour la soirée de pré-ouverture du FFFH. Là, on est justement dans la salle. Vous pouvez me décrire ce qui est en train de se passer ?
Déjà, un premier mot auquel je pense comme ça d'a priori, c'est que l'occasion qu'on a dans un festival, c'est justement de présenter des films qui n'ont jamais été vus. Ce qui est à la fois une chance et aussi un défi, parce que généralement, du coup, ces films sont un petit peu protégés, donc on n'a pas l'occasion de les tester de la même manière que pour un film qu'on passerait de manière régulière. Et pour revenir à votre question, donc, pour ce qui se passe dans la salle, là, actuellement, donc, comme je disais avant, il y a l'accueil d'un certain nombre d'invités. Et donc là, on est en train de préparer pour que le public ait à l'écran et aussi en live directement devant eux la meilleure expérience possible. Donc on essaye de faire en sorte que les micros sonnent le mieux, qu'ils soient parfaitement alignés. Pour décrire ce qui se passe actuellement, donc là on voit à l'écran, donc c'est les F du FFFH qui sont une décoration qui est demandée spécifiquement pour ce festival. Et au centre, on a donc ce qu'on appelle un test pattern qui permet de vérifier la netteté, différentes propriétés de l'image pour s'assurer que tout sera parfait au moment où le public sera accueilli.
Donc là, c'est vraiment le côté préparation, donc ce qu'on fait avant. Après, pendant le film, du coup, vous êtes un peu plus tranquille ?
Pour notre part, oui, on est un peu plus tranquille dans la mesure où il n'y a pas de problème. Et puis après, ben, on est juste là. On est là pour s'assurer que tout se déroule bien et qu'on puisse réagir très rapidement en cas de problème.
C'est quoi justement les problèmes qui peuvent survenir pendant une présentation ?
Comme je le disais avant, c'est des films généralement qui sont montrés pour la première fois. Donc on les teste de manière assez poussée, mais parfois il peut avoir des surprises, que ce soit avec le film, que ce soit avec nos machines. Le genre de problème qu'il peut y avoir, c'est un noir à l'écran et on fait en sorte que ça ne se produise pas. Et si ça se produit, on essaie de faire en sorte que ça se résolve le plus vite. Après, décrire exactement comment c'est résolu, c'est un vaste sujet.
C'était Ricardo Martella au micro d'Estelle Herman. Il nous parlait de sa fonction de responsable technique Cinévital au Festival du film français d'Helvétie à Bienne dès aujourd'hui et jusqu'à ce dimanche. Retrouvez notre série sur le FFFH sur le site internet rjb.ch. La ville de Bienne veut acheter des œuvres d'artistes biennois pour enrichir sa collection d'art. Le conseil municipal a approuvé un crédit d'engagement de 100 000 francs en ce sens aujourd'hui, ce qui permettra d'acquérir des travaux récents d'artistes émergents ou établis qui vivent et travaillent à Bienne. La ville de Bienne entend créer un aperçu représentatif de la diversité en matière de création contemporaine régionale. Elles sont organisées en pleine nature, loin des habitations et durant la nuit. Les rêves parties sèment la controverse dans notre pays. En mars dernier, une de ces fêtes sauvages s'était tenue au Mont-Creusin, sur le territoire de Cormoret. Plusieurs villages s'étaient plaints de ces nuisances sonores et de déchets laissés sur site. Dédiaboliser cette forme de divertissement, c'est notamment l'objectif d'Onde Libre, une association de médiation qui fait le lien entre les rêveurs, les riverains et les autorités. Loïc, on ne dira que son prénom, en est le fondateur.
On essaye déjà d'intervenir au stade politique. Donc on essaye d'avoir des discussions avec des politiciens, de protéger les intérêts de la Free Party, qui sont protégés par personne, à part nous. On essaye aussi d'intervenir pendant l'événement, avec un système de care team qu'on a mis en place récemment, qui sert à protéger le site et les participants. Nous tentons aussi d'intervenir après l'événement. Des fois, il y a des articles dans les journaux qui ne nous mettent pas forcément en valeur, qui mentent des fois sur certaines parties ou exagèrent certaines choses qu'on aurait pu faire. Donc on essaie de rétablir la vérité sur les réseaux sociaux. Et nous souhaiterions également, à l'avenir, pouvoir intervenir lors de l'organisation, parce qu'on essaie d'élaborer un cadre légal qui manque justement actuellement, mais on ne l'a pas encore trouvé. Et pour l'instant, si on intervient lors de l'organisation, on est complice. Donc pour l'instant, tant que ce n'est pas accepté, tant qu'on n'a pas l'aval de l'État, on ne peut pas intervenir à ce stade-là.
Gaëtan, lui, est le porte-parole de BSA, un groupe qui organise des rêves parties en Suisse. Il se dit bien conscient des critiques formulées par de nombreux citoyens, notamment en termes de perturbation de l'environnement.
Ça nous pose aussi problème parce que notre objectif, c'est vraiment pas de les déranger, c'est de faire au mieux. On a beaucoup de respect pour la nature, aussi question des déchets et tout ça. On est irréprochable. C'est peut-être arrivé une ou deux fois que des jeunes qui commencent, on fait deux, trois erreurs, mais on est derrière pour les remettre aussi à l'ordre. Et voilà.
Puis vous parliez de répression, de la police, justement, ces échanges avec la police, est-ce que parfois, ils se passent quand même de manière plus positive ?
C'est rare parce qu'ils ne connaissent pas réellement ce qu'est la Free Party, ils ne connaissent pas les valeurs, comment ça se passe réellement. Ils ont leurs idées, alors quand ils viennent nous arrêter, nos soirées, ils imaginent que voilà, on est là pour la drogue, on est là pour faire les cons, on s'en fout, on est au-dessus des lois, mais c'est faux. On essaie de les sensibiliser. C'est vrai que plusieurs fois, j'ai discuté avec des gendarmes qui ont pris le temps de m'écouter et souvent m'ont dit que ça leur a fait du bien de nous écouter et de comprendre.
Gaëtan Eloïc, acteur du monde des rêves partis, était invité par Olivier Zano dans la matinale. Renforcer la communication, imaginer un cadre légal pour l'organisation des rêves partis, autant d'outils qui pourraient permettre d'atténuer un peu les tensions autour de ces fêtes sauvages et nocturnes. C'est en tout cas l'espoir des organisateurs. Retrouvez leur interview en intégralité sur rjb.ch. Le Conseil des États a réservé le même sort aux initiatives du centre et du Parti socialiste en lien avec les coûts de la santé. Deux rejets nets avec des contre-projets indirects minimalistes. Ce matin, la Chambre des cantons a donc validé une adaptation de la loi censée freiner quelque peu la hausse des coûts de la santé, sans toutefois dire comment. Les initiants du centre ont voté le contre-projet et l'initiative. La Valaisanne Marianne Marais explique pourquoi.
Le contre-projet, naturellement, amène des améliorations à la situation naturelle. Donc, on ne pouvait pas le refuser dès lors qu'il fait un pas dans le sens de notre souhait. Maintenant, il n'est clairement pas suffisant. C'est pour ça que nous avons défendu le maintien de l'initiative à ce stade, en tout cas. Surtout, elle inscrit dans la Constitution, c'est le problème d'une initiative, les objectifs liés aux freins.
Donc, vous êtes en train de nous dire que l'initiative, vous allez la soumettre au peuple?
Je ne suis pas encore présidente du parti, donc la décision ne m'appartient pas. Si je devais la prendre aujourd'hui, à titre personnel, je dirais oui, on doit la maintenir, bien sûr, pour garder la pression.
Vous êtes le centre seul à avoir voté cette initiative avec Thomas Minder, mais ça ne fait toujours pas une majorité. Comment est-ce que vous pourriez convaincre le peuple?
Parce que le peuple est complètement concerné par nos préoccupations. La seule vraie réponse, c'est de freiner l'augmentation des coûts.
Frein égale rationnement?
Pas forcément. Il y a des mesures d'économie qu'on connaît, entre autres liées aux médicaments. On perd chaque année 400 millions de francs au niveau des médicaments, alors que des correctifs pourraient être amenés, mais il n'y a pas la volonté politique.
Résultat du Conseil des États, lors du vote sur l'initiative du centre pour un frein au coût de la santé, 14 oui, 29 non. Résultat de ce même Conseil des États en lien avec l'initiative socialiste pour plafonner à 10% du revenu la charge des primes maladie, 11 oui et 33 non. Pas de soutien aux familles par des subsides au logement. Le Grand Conseil bernois ne veut pas que le canton verse des subsides au logement aux familles dont le loyer pèse trop lourd dans ce budget. Par non de voix contre 56, il a rejeté aujourd'hui une motion socialiste. Le Parlement cantonal entend mettre la priorité sur la pénurie de logements.
À 12h29, Josette Sédou, il est temps de chausser nos crampons.
Sport. L'équipe de Suisse de football assure l'essentiel sans convaincre. Elle reste invaincue dans les qualifications à l'Euro 2024 après un premier rassemblement de la saison. La Nati a pris la mesure d'Andorre 3-0 hier soir à Sion, trois jours après le nul ramené du Kosovo. Si la sélection de Murat Yakin ne s'est de loin pas montrée flamboyante, elle conserve la tête de son groupe. De quoi tirer un bilan satisfaisant de ce rassemblement selon le gardien Yvon Mvogo.
On peut retirer de bons enseignements, parce que le match du Kosovo, on s'est tiré une balle dans le pied tout seul. C'est un match qu'on menait au score, ils sont revenus, on a su remettre encore un deuxième but, mais derrière on ne peut pas faire ce genre d'erreur d'inattention et surtout d'expérience. Et je pense que c'est bien, on doit toujours apprendre de nos erreurs, c'est comme ça qu'on progresse. Et on a su très bien rebondir sur ce deuxième match-là contre Andorre, qui était une équipe, on va dire, un peu similaire, qui nous attendait vraiment bas et qui procédait sur contre. Et le mot pour décrire ce rassemblement, je pense, c'est vraiment apprentissage. Apprentissage et ne plus refaire les mêmes erreurs.
Donc bilan plutôt positif?
Oui, bilan plutôt positif. 4 points sur 6 possibles, quand même positif.
Ce rassemblement a aussi été marqué par les tensions entre le capitaine Granit Xhaka et le sélectionneur Murat Yakin. Les deux hommes semblent avoir mis leurs différends sur la table et tourné la page, du moins à en croire le directeur des équipes nationales, Pierluigi Tammy.
Bien sûr, après, on a perdu un peu d'énergie avec des discussions qu'on aurait bien pu éviter. C'était des discussions liées plutôt sur des aspects techniques et c'est pour ça que j'ai forcé le dialogue entre l'entraîneur et le capitaine, ce qu'on a fait tout de suite le lendemain des déclarations de Xhaka. parce que pour moi, c'est important que le focus à ce moment-là, c'est l'équipe et c'était le match contre Andorra. J'ai parlé avec les deux après cet entretien et ils étaient contents tous les deux de cet entretien-là. On parle de deux personnalités fortes et je pense que les personnalités fortes peuvent rendre encore plus fort l'équipe s'ils travaillent bien ensemble.
La Suisse poursuivra son parcours dans les qualifications à l'Euro 2024 dans un mois. Ça sera avec un déplacement en Israël, puis la réception du Bélarus. Un petit tour et puis s'en va pour Jill Teichmann à Osaka. La Biennoise a été battue dès son entrée en lice la nuit dernière dans le tournoi de tennis de la cité japonaise. Elle s'est inclinée face à la Chinoise Xin Yu Wang en deux manches 7-6-6-3. Place au dernier effort pour les quatre foulées. La quatrième et ultime étape de cette épreuve de course à pied se dispute ce soir au Breuleux. Départ à 19h pour une boucle de 9,8 km. Le sacre tend les bras à Michael Morand et Chantal Pape-Juillard. Le courtisan compte plus de 8 minutes d'avance sur la concurrence, alors que la joulotte a une marge d'une minute 37 sur sa plus proche rivale. Retrouvez les résultats dans la soirée ou sur notre site internet rjb.ch.